Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'évite de passer des journées complètes avec mon fils parce que je sais que c'est fatigant pour moi. Et donc cette mobilité du quotidien m'a posé problème vraiment durant les premières années et même encore aujourd'hui.
Il faut aussi être soutenu. Comment laisser la place à quelqu'un d'autre sans perdre son rôle de mère?
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Hélène?
Alors je viens aujourd'hui vous parler de ma parentalité et de mon handicap. Mmh. Et plus particulièrement de ce qui a été problématique pour moi durant ma grossesse, durant les premiers mois de vie de mon fils. Et qu'est-ce qui est encore aujourd'hui compliqué avec mon petit garçon.
Du coup, Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation, le handicap qui vous touche?
Alors oui, j'ai été opérée au niveau de mon dos. Donc c'est ce qu'on appelle une arthrodèse lombaire. Donc au niveau des vertèbres L4, L5, S1. Donc ça consiste à stabiliser quelques vertèbres entre elles. Et je garde en fait une fragilité liée à cette opération. Donc je souffre quotidiennement de douleurs chroniques. Donc ça se manifeste par des douleurs au niveau du dos. Mais du coup, le dos étant central, ça remonte en fait dans tout mon dos et ça va me créer des contractures, une sciatique régulière dans ma jambe qui va me faire boiter régulièrement. Voilà, donc une douleur qui se régule en fonction de mon activité, mais une douleur quotidienne.
À quel moment, du coup, vous avez eu le projet d'avoir un enfant? Est-ce que vous aviez déjà eu cette opération?
Oui. Oui, oui, j'étais déjà opérée au moment où j'ai souhaité avoir un enfant, tout à fait. Ça datait de 4 ans.
Et du coup, comment vous avez appréhendé ce projet du fait de votre handicap?
J'ai, au moment de mon opération, vu plusieurs médecins, bien sûr, dont deux, qui m'avaient dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a suivi en rééducation, qui, pour lui, il n'y avait pas de contre-indication. Donc, j'avais eu ces infos-là. Donc, moi, comment j'ai appréhendé? À ce moment-là, je pense que je me rendais pas compte. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer. J'ai par contre été mise en arrêt maladie très vite, à 3 mois de grossesse, puisque le poids commençant à peser sur mon corps, j'ai été arrêtée à 3 mois de grossesse jusqu'à la fin. J'ai pas pu travailler.
Du coup, comment s'est passé le début de la grossesse, puis la grossesse? Est-ce que du coup, vous avez des inquiétudes quant au fait de ce qui allait pouvoir peut-être se passer physiquement pour vous pendant la grossesse?
Alors, des inquiétudes une fois que j'étais enceinte, oui, j'avais notamment des inquiétudes concernant la péridurale, parce que quand j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, il m'a bien expliqué qu'il allait piquer au niveau de ma cicatrice. Donc vraiment juste au-dessus, mais on touchait quand même la cicatrice. Donc ayant travaillé moi-même en service de maternité, je n'avais pas du tout peur, comme certaines femmes peuvent avoir, hein, cette appréhension de l'aiguille, de la péridurale. Moi, c'était le fait qu'on me touche encore à mon dos. Puisqu'avant d'être opérée, j'avais eu 5 infiltrations qui ont été extrêmement douloureuses pour moi. Donc cette zone reste très sensible encore aujourd'hui. Et j'ai mis en place un accompagnement auprès d'une sage femme libérale pour préparer ensemble cette pause de péridurale par de l'auto-hypnose. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois là-dessus, puisque mon idée c'était de ne pas prendre la péridurale, mais le jour J, je savais bien qu'en fonction de mon état, de ma douleur, de ce que j'allais décider, il serait possible que je demande une péridurale, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, la douleur étant présente particulièrement dans mes reins, à l'arrière, je savais que par-dessus mes douleurs de dos, ce serait trop compliqué, donc j'ai vite demandé la péridurale, et j'ai pratiqué du coup l'auto-hypnose le jour J, et tout s'est très bien passé.
Et ensuite, comment se sont passés les premiers jours ?
Alors, les premiers jours, très compliqués parce que j'ai eu un accouchement très long au niveau de l'expulsion. Mon fils a mis 45 minutes à sortir, ce qui est quand même long. Donc, un effort physique pour moi qui a été extrême. Et j'ai eu des répercussions sur mes douleurs qui ont duré un mois. Jusqu'à ce que je vois en fait un ostéopathe et que cette douleur diminue. Mais un mois où j'étais très, 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 très douloureuse, avec beaucoup de prises de médicaments. Et puis, mon petit bébé à nourrir toutes les 3 heures. Enfin, voilà, le fait de me mettre assise me posait énormément de problèmes. Et puis, on sait que quand le bébé vient de boire, on doit rester un peu assis avec l'enfant. Donc, un premier mois très douloureux. Et après, ça allait mieux.
Comment vous avez choisi de nourrir votre enfant ?
Alors, je n'ai pas pu allaiter puisque c'était contre-indiqué avec tous les médicaments que j'ai dû prendre à la naissance, voilà, qui m'ont aidée hein, dans cette période de douleur assez haute.
Est-ce que vous aviez anticipé finalement le fait voilà, que ce postpartum, ce premier mois après la naissance de votre enfant, voilà, qui aurait ces douleurs aussi intenses ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé ?
On en avait parlé avec mon mari, mais je pense vraiment qu'on était loin de s'imaginer à quel point ça serait si difficile. C'était déjà compliqué dans notre quotidien de couple, ce handicap, mais j'arrivais beaucoup plus à varier. Je pouvais m'allonger 2 heures si je le souhaitais en rentrant du travail, ne pas manger avant une certaine heure. C'est complètement différent quand on devient parent et qu'une vie de famille s'installe. Mais ça, on l'a perçu qu'une fois qu'on est devenu parent.
Et du coup, avec les mois, quels ont été les défis à relever, les difficultés peut-être que vous avez rencontrées ?
Les difficultés ont été au moment où mon fils a commencé à grossir, à prendre du poids, parce que le portage devenait compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que c'est devenu plus complexe pour moi. J'avais un petit garçon qui avait besoin d'être beaucoup porté à la verticale. Voilà, je pense avec du recul qu'il souffrait sûrement de reflux, parce que je n'arrivais pas à le poser. Donc, beaucoup d'endormissement en porte-bébé, puisqu'à bras, c'était encore plus compliqué pour moi. Donc, j'avais fait un atelier de portage. J'avais été accompagnée parce que j'avais des notions, mais j'avais eu vraiment ce besoin qu'on m'aide pour nouer correctement au niveau physiologique. Donc, je le portais en porte-bébé, mais arrivé à 5-6 mois, quand il a eu 5-6 mois, il était trop lourd pour moi. Donc, j'avais envie d'abandonner cette façon de faire, mais il en avait besoin. Donc, à ce moment-là, je me suis questionnée sur comment répondre aux besoins de mon fils, tout en répondant à mes propres besoins qui étaient de ne plus pouvoir le porter, quoi. Donc, j'ai à ce moment-là fait beaucoup de recherches sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose. Et j'ai trouvé, en fait, un accompagnement du SAPPH, qui est donc un service d'accompagnement sur Paris, qui m'a reçue et qui m'a donné des clés. La péricultrice m'a prêté une baignoire pour notamment en position assise, parce que la position debout était pour moi trop fatigante, surtout en fin de journée. On m'a prêté du matériel et je me suis surtout sentie soutenue lors de cet entretien. J'avais mis des choses en place à ce moment-là, mais très vite, voilà, j'ai quand même eu besoin de porter mon fils. De toute façon, même si je réglais cette problématique de sommeil, il faut quand même le mettre dans la voiture, sortir la poussette. C'est un bébé qui ne marchait pas, et même en marchant, j'ai continué à avoir des difficultés, puisque un enfant fatigue. Et donc, cette mobilité du quotidien m'a posé problème vraiment durant les premières années, même encore aujourd'hui.
Oui, du coup, quand votre fils a commencé à marcher, j'imagine de lui courir après, entre guillemets, c'est peut-être compliqué, voire impossible pour vous.
Oui, c'était impossible pour moi. Et quand il a eu 1 an, j'ai pris la décision. Je précise aussi que j'ai gardé mon fils durant presque jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Et au bout d'un an, je fatiguais. Alors, il faisait 2 à 3 siestes par jour, donc ça me permettait d'avoir du temps pour me reposer. Mais j'ai devancé en l'inscrivant à une halte-garderie pour me permettre d'avoir 2 matinées par semaine pour, en fait, me reposer et retrouver un équilibre dans ma vie de famille. Et ça nous a beaucoup aidés. Parce que il a marché en plus à 10 mois, il marchait déjà. Et dans la rue, effectivement, quand il se mettait à courir d'un coup, moi, je peux pas courir. Enfin, en tout cas, si je cours, il m'est arrivé de courir pour le rattraper, je me fais mal. Donc, je mettais en place des stratégies, c'est-à-dire que j'ai pris pendant très longtemps la poussette en expliquant à mon fils que voilà, moi, dans la rue, pour moi, c'est pas possible. Voilà, je ne peux pas le rattraper, c'est trop dangereux, et que pour sa sécurité, je prends la poussette, et qu'une fois arrivé dans un parc clôturé, il sortirait de la poussette, et ça s'est très bien passé. Donc, je mettais en place des stratégies comme ça, où je prenais la voiture. Et après, en grandissant, il y avait une période où il prenait lui-même une poussette pour marcher. Donc, en fait, ça le canalisait, il aimait bien. Donc, ça se passait bien dans la rue. Donc, on mettait en place des techniques, des stratégies pour que ça convienne à tous les deux.
Comment vous avez organisé les choses avec votre conjoint ?
On s'est beaucoup relayé dès le départ pour que je puisse avoir des temps de repos nécessaires pour moi. On s'est beaucoup relayé sur une journée ou quand le soir il rentrait du travail. Je dirais, on a beaucoup communiqué sur cette situation. Puis c'est des choses qui ont évolué aussi dans le temps. Aujourd'hui, j'évite de passer des journées complètes avec mon fils parce que je sais que c'est fatigant pour moi. Donc, je vais mettre en place, un planning qui va me convenir à moi pour que je ne sois pas trop fatiguée et donc que je n'ai pas trop mal. Donc, ça, c'est des choses où tous les deux, on en discute en avance. En fait, on devance quand même pas mal les choses. Et même si on ne peut pas tout devancer et que des choses arrivent sur le moment, on va beaucoup en parler et se soutenir.
Est-ce que ça a pu être source de difficultés par moment au sein du couple ?
Oui, bien sûr, puisque vu que ça nous est un peu tombé dessus, là aujourd'hui je dirais que ça roule, hein, que voilà, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans notre quotidien, mais ça a pu être compliqué, notamment il y a 1 an, puisque ma grossesse a réabîmé là où j'ai été opérée. Donc j'ai dû refaire un séjour en centre de rééducation, puisqu'à la suite de ces 3 ans où je me suis occupée de mon fils, j'ai repris une activité professionnelle. Et donc là, pour moi, c'était trop, parce que c'était un travail à temps plein. Et quand je rentrais le soir à la maison, je rentrais douloureuse et je devais du coup entamer cette soirée avec mon petit garçon. Donc là, ça a été compliqué parce qu'à un moment donné, mon corps a dit stop et j'ai été hospitalisée en hôpital de jour avec une incapacité totale à m'occuper de mon fils durant 3 mois. 3 mois où du coup mon mari a dû tout gérer et donc là forcément ça a été trop pour lui et on a fait sur le moment. Mais là, pour moi, c'était, je ne pouvais pas du tout le relayer. Alors, bien sûr, à la suite de ces 3 mois, je suis sortie avec déjà des douleurs qui peuvent être à 0. Donc ça, c'est chouette. Et on m'a donné vraiment des outils pour améliorer ce quotidien familial pour tous les trois. Et j'ai aussi repris une activité physique qui me permet aujourd'hui de rester quand même plus longtemps debout, plus longtemps assise. J'ai fait aussi le choix de ne plus porter mon fils, puisque jusqu'à l'année dernière, je le portais encore. Donc aujourd'hui, il monte tout seul dans la voiture. Quand il se fait mal, je m'assois par terre et je le prends dans les bras. Voilà, et je communique aussi de manière différente avec mon fils depuis ce séjour. Mais avant ce séjour, Je dirais que voilà, il avait 3 ans et demi l'année dernière. On arrivait dans un cercle vicieux où là, c'était vraiment compliqué pour nous trois, hein, clairement.
C'est à ce moment-là, du coup, que vous avez parlé de votre handicap à votre enfant ?
J'en ai toujours parlé. Il a vu ma cicatrice. Mais oui, j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était moi la priorité. Parce que si moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas l'accompagner. J'en ai beaucoup plus parlé à ce moment-là, mis beaucoup plus de mots sur ce que je ressens, ce qui se passe. Et j'ai aussi fait attention qu'il ne pense pas que c'est sa faute. Parce qu'il a pu peut-être entendre que ma grossesse a abîmé mon dos, donc ma grossesse, bah, c'est lié à lui. Donc j'ai été vigilante depuis l'année dernière sur tout ça.
Aujourd'hui, comment votre enfant vit votre handicap ?
Il sait que je peux avoir des pics de douleur et que je peux avoir besoin d'aller me reposer ou notamment de faire des étirements, puisque je fais beaucoup d'étirements quotidiennement. Il comprend, c'est-à-dire que parfois on peut être en train de faire une activité, de la peinture ou autre, et d'un seul coup je vais sentir voilà que mon dos commence à fatiguer. Je lui dis je vais m'étirer 5 minutes et je reviens. Il sait, il attend, en fait il continue tout seul. Même il peut me dire bah regarde maman là il y a une chaise, est-ce que tu veux que je t'amène une chaise ou là regarde tu peux poser ton dos. Mais je fais aussi attention aujourd'hui de ne pas trop en parler, de pas trop dire j'ai mal. Que ce soit pas trop pesant pour lui.
Vous avez peur que ça puisse être trop pesant pour lui ou que ça ait un impact difficile, négatif ?
J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'en parlais beaucoup. Je me plaignais beaucoup, notamment l'année dernière avant l'hospitalisation. Je me souviens pas trop, mais je pense que tous les jours, je disais j'ai mal. Donc c'est vrai que pour mon mari, lui a pu le formaliser. Voilà, ça reste un adulte. Mais me dire voilà, tous les jours, tu disais tu as mal et c'est pour la personne qui est en face. Voilà, c'est aussi difficile et mon mari, les mots qu'il me disait, c'est aussi le fait qu'il puisse rien faire pour moi. C'est frustrant aussi pour lui de dire bah, je peux pas l'aider, enfin au-delà de ce que je fais déjà. Donc peut-être que pour mon fils, à un moment donné, je me suis dit oui, ça peut être pesant pour lui. Donc je fais attention.
Vous avez le sentiment qu'il s'est adapté, lui, à cette situation et finalement au fonctionnement familial ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il fait pas les mêmes jeux avec mon mari et avec moi. Par exemple, s'il me propose de jouer à chat, il sait que je vais pas courir, mais on le fait en marchant. Ou on le fait moins longtemps. Et c'est lui-même qui le propose. Et à côté, bon, on fait d'autres choses où c'est OK pour moi. J'ai notamment mis un ballon dans ma salle à manger. Et quand on fait une activité dirigée, hein, voilà, de la peinture, du dessin, quelque chose qui va durer ou un jeu de société, je me mets sur le ballon et ça me permet en fait de bouger mon corps et de rester, s'il le souhaite, une heure en train de faire l'activité. Parce qu'assise au sol, je vais avoir une capacité beaucoup plus réduite. Donc il le sait, ça fait partie des règles à la maison. Quand on fait quelque chose voilà, qui va durer, on installe sur la grande table parce que j'ai mon ballon, parce qu'il sait que je suis bien, que tout le monde est bien.
Merci beaucoup Hélène. Je vous propose qu'on rejoigne notre experte Drina Condylis. Bonjour Drina Condylis.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste. Vous avez enseigné pendant plus de 30 ans à l'université comme maître de conférence en psychopathologie et psychanalyse. Vous avez aussi créé un accueil spécifique de la parentalité chez les personnes en situation de handicap sensoriel et moteur aux côtés d'Edith Touelle et Martine Vermillard à l'Institut de puériculture de Paris. Vous êtes l'auteur de « Rencontres avec Thierry Berry-Bradelton », publié aux éditions RS, « Naître et après, du bébé à l'enfant », aux éditions Gallimard, et d'un petit ouvrage aux éditions Yapakabi. Donc c'est sur le site qu'on trouve en accès libre et gratuit d'ailleurs, sur Internet, sur Yapaka, intitulé « Accompagner le parent porteur de handicap ». Depuis de nombreuses années, les personnes porteuses d'un handicap souhaitent devenir parents, avoir accès à la parentalité. Cependant, cette question reste assez marginale dans les politiques de santé, l'accès aux soins étant un véritable enjeu dans ces situations. Mmh. Être parent en situation de handicap implique de relever de nombreux défis qui vont varier en fonction du handicap lui-même. Quels sont les enjeux spécifiques pour les parents porteurs d'un handicap moteur, sensoriel ? Quel est le vécu des parents et des difficultés auxquelles ils doivent faire face ? Comment se faire aider, accompagner pour accueillir au mieux son enfant ? Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Drina. Tout d'abord, Drina, à peu près, est-ce que vous connaissez combien de parents sont concernés à peu près en France par une situation de handicap ?
Alors, je ne connais pas le chiffre exact, mais ce que je sais, c'est que dans la population des femmes et des hommes en âge d'avoir des enfants, le taux d'accession à la parentalité est pratiquement le même que dans la population générale. Ce qui touche bien sûr une population moins importante, hein, mais à taux différent, c'est à peu près 10 à 12% d'une classe d'âge qui accède à la parentalité. Donc ça, c'est un phénomène quand même relativement récent. Et on ne peut que s'en féliciter parce que ça suppose, je dirais, presque de transgresser des interdits qui ont pesé sur les personnes en situation de handicap pendant de nombreuses générations.
Oui, ce que nous disait Hélène, d'avoir entendu de la part des médecins « vous n'aurez pas d'enfants », j'imagine des choses qui étaient beaucoup dites autrefois et qui, j'espère, ne le sont plus aujourd'hui.
Elles le sont de moins en moins, on ne peut pas toujours les éviter, mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé, et que c'était vraiment une parole que de nombreuses personnes handicapées entendaient, ça c'est clair.
Comment on explique cette crainte, finalement, en tout cas cet interdit qui serait posé sur ces personnes en situation de handicap? Pourquoi elles n'auraient pas, presque envie de dire, le droit d'avoir accès à la parentalité? J'imagine derrière ça qu'il y a des peurs.
La situation d'Hélène est un petit peu particulière. Le handicap n'est pas quelque chose d'homogène. Hélène a eu cet accident au détour d'une maladie, mais elle n'est pas née avec une maladie génétique transmissible. Et je pense qu'une des grandes peurs, c'était ça, c'était la transmission génétique. Au point que ça a pu même justifier des politiques eugénistes.
De
stérilisation pendant extrêmement longtemps, hein, jusqu'à l'aube du 21e siècle. Donc c'est hallucinant quand on se dit ça, mais ça a été vraiment extrêmement actif. Et puis, il y avait un deuxième obstacle, peut-être, je ne sais pas si c'est pas le cas pour tout le monde, c'est que les personnes en situation de handicap, quand elles étaient jeunes, elles étaient en institution spécialisée et souvent maltraitées. Donc tout ça faisait qu'effectivement, la parentalité n'apparaissait pas comme allant de soi.
Comment pour vous, Drina, les choses ont changé, ont évolué ?
Ah, je pense qu'elles ont évolué avec quelques grandes lois entre les années 60 et 70 qui ont été une prise de conscience, je dirais presque mondiale, de la nécessité de ce mot inclusion que je déteste, mais en tout cas d'une autre manière de considérer la personne handicapée. Entre les années 70 et les mises en place des législations dans tous les pays, ça a pris, vous voyez, 30, 40, 50 ans. Donc, les progrès sont très, très lents. Mais quand même, quelque chose a pu être pensé de manière différente. Ça reste encore, dans beaucoup de pays, bien sûr, quelque chose qui n'est pas encore dans les législations. Et quand je dis législation, c'est quand même une prise de conscience collective. Quand il y a une loi, ça veut dire que collectivement, un pays se rend compte de la nécessité d'inclure toutes les personnes. Ce qui est très, très, très important.
Vous, Drina, quel est le vécu que vous avez pu observer chez les parents en situation de handicap ?
Il y a eu beaucoup, beaucoup de situations différentes en réalité. Bon, bien sûr que la question de la transmission est une question centrale pour beaucoup de personnes. Et heureusement que la génétique a fait d'énormes progrès. Et que aussi la procréation médicalement assistée a pu venir en aide à ces personnes avec, je dirais pas, enfin si, on peut dire ça, une sorte de tri des embryons. C'est pas, dans ce cas-là, c'est quelquefois souhaité par les parents eux-mêmes. Pas tous, hein, mais un certain nombre d'entre eux, dont la douleur à vivre leur propre handicap a été telle qu'ils n'ont pas envie de faire subir ça à leurs enfants. Une deuxième raison, c'est qu'il faut aussi être soutenu. C'est pas évident dans les couples parents-enfants quand un enfant est handicapé D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand nous, on a commencé à parler des parents handicapés, à chaque fois, ça voulait dire que c'était l'enfant qui était handicapé. Et comme si ces enfants ne devaient jamais grandir. Quoi. Ne devaient jamais devenir adolescents, adultes, rencontrer des compagnons. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'était quand même un symptôme d'une difficulté des parents d'enfants handicapés auprès desquels ils se sont vraiment dévoués, certainement, de lâcher ça. Si ma fille fait un couple avec quelqu'un et qu'elle devient mère à son tour, alors qu'est-ce que je deviens, moi, la grand-mère, hein ? Et en plus, si elle met au monde un enfant en bonne santé, alors que moi, j'ai eu la difficulté que mon enfant n'était pas en bonne santé, c'est terrible. Donc, vous voyez, il y a à la fois une prise de conscience collective et puis aussi des transformations profondes de la famille. Hein. Et ça, c'est pas si simple. Et c'est très variable d'une famille à une autre. J'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui, finalement, avaient quitté leur famille pour pouvoir vivre leur vie. Alors, ça existe aussi chez tout le monde. Quelquefois, on est obligé de quitter sa famille pour pouvoir vivre sa vie. Mais là, ça prend des proportions quelquefois beaucoup plus importantes.
Des dimensions différentes.
Des dimensions différentes,
oui. En tout cas, là, dans ce que vous nous dites, Drina, j'entends vraiment différentes situations. Oui. C'est-à-dire le parent en situation de handicap, d'un handicap qui se transmet génétiquement.
Bien sûr.
On pourrait imaginer, donc, il y a la situation d'Hélène, voilà, une maladie. Il pourrait y avoir aussi un accident qui amène à un moment donné, avant l'accès à la parentalité, ou peut-être même une fois qu'on est parent, voilà, on se retrouve après en situation de handicap. En tout cas, il y a toutes ces situations qui, finalement, vont les unes les autres avoir des spécificités différentes.
Je pense des spécificités, et avec ce point commun, qu'il faut arriver à intégrer le handicap dans sa vie. Ce que fait Hélène tous les jours. Parce que le handicap, il ne s'effacera pas, il sera toujours là. Et en fonction de l'avancée dans la vie, il pose des questions nouvelles. Que ce soit, bien sûr, pour Hélène, ce n'est pas le cas, mais l'adolescence, ou que ce soit la rencontre d'un compagnon, ou que ce soit le fait de devenir parent, ou que ce soit le fait d'accepter que ses enfants s'en aillent. Situation que chacun...
Tous les parents vivent.
Que chacun vit, bien sûr. Mais là, il y a toujours cette dimension du handicap qui se rappelle à nous comme une chose extérieure. Et la grande difficulté, je pense, c'est d'arriver à l'intégrer en soi. Je ne sais pas si c'est faisable, d'ailleurs. Pratiquement jusqu'au bout, il y a des limites à ça.
Oui, là, vous nous dites bien qu'à chaque étape de vie, ça vient re-questionner, réactiver.
Absolument.
Et poser de nouvelles questions, amener de nouveaux défis, nouveaux enjeux.
Bien sûr.
Pour revenir à la situation du handicap physique, pour vous, Drina, quelles sont les particularités de ces situations ? Alors, Hélène nous en a déjà parlé. Déjà, le fait de porter, de pouvoir porter ou non son enfant. Voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette question du portage, de l'importance de porter, évidemment, de câliner, de cajoler, notamment dans les tout premiers instants de la vie. Qu'est-ce qui se passe là pour les parents en situation d'handicap physique ?
Oui, je crois que c'est une grande frustration de ne pas pouvoir porter, comme l'a dit Hélène, très bien, vraiment. Et puis aussi tenir dans la distance. Je crois que cette fatigue, beaucoup de personnes en situation de handicap moteur le ressentent. Moi, je dirais aussi que du point de vue de la fonction maternelle, le portage, je me réfère à un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott, le portage est une des fonctions centrales. Portage d'abord dans le ventre et puis après le portage du bébé. C'est par le portage quand même que les liens se créent. Alors les mères, on n'a pas besoin de leur faire un cours de psychanalyse de l'enfant là-dessus, elles le savent très bien, mais c'est vraiment extrêmement difficile. Et j'étais très intéressée quand Hélène a parlé justement de stratégie, parce qu'effectivement, les mères, disons, valides, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle, les mères valides ne se posent pas la question. Les mères avec un handicap, elles doivent se poser la question d'avoir des stratégies, effectivement, qui les ménagent. Voilà.
Là va être tout l'enjeu, justement, dès la grossesse, finalement, d'anticiper, d'organiser, de se projeter dans la vie avec le bébé pour développer des stratégies?
Alors ça, je pense que c'est tout à fait important. Et c'était une des raisons pour laquelle on a fondé le SAPPH, qui, heureusement, maintenant se diffuse un peu en France. Et je crois que là, vraiment, l'anticipation, elle est vraie aussi pour toute femme. C'est-à-dire que pour que la naissance d'un enfant n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, bah, il faut au moins y avoir réfléchi. Et dans la situation du handicap, c'est plus que réfléchi. C'est aussi stratégiquement, comme disait Hélène, avoir quelques possibilités d'aménagement.
Dans le handicap moteur, il y a aussi cette question de l'autonomie, de l'enfant qui grandit, qui, lui, peut se mettre à marcher quand le parent, bah, peut-être, ne peut pas, soit pas marcher, soit pas courir. Donc là, j'entends voilà, la question de l'autonomie, de la sécurité. Voilà.
C'est tout à fait juste. Et il y a vraiment un âge, chez tout enfant, où cette conquête de l'autonomie passe par des colères, passe par des résistances, passe par des oppositions, ce qui font partie de son développement. C'est un enfant qui serait toujours comme un filet d'eau tiède, c'est plus inquiétant que celui qui se met en colère. Ces moments d'autonomie constituent un temps de crise, à la fois pour les parents lambda et pour les parents handicapés peut-être encore plus. Alors vous parlez du handicap moteur, effectivement le bébé court et la mère peut pas courir derrière, ce qui est extrêmement énervant et frustrant. C'est encore plus peut-être sensible avec des handicaps visuels, où là vraiment ça soulève une grande angoisse. Donc là aussi, au SAPPH, on avait essayé, parce que Edith Toye avait une imagination sans bornes. Alors, elle avait imaginé des grelots, des trucs comme ça, qu'on a laissé tomber parce que c'était absurde. Mais voilà, dans les trucs, si vous voulez, on cherchait effectivement comment les mères pouvaient penser. En fait, c'est penser cette autonomie. Une fois qu'on a pensé, on trouve peut-être quelquefois une solution.
En tout cas, là, vous parlez de l'angoisse. Alors, j'entends à la fois l'angoisse pour le parent. Comment je vais faire? Comment je vais porter mon enfant? Comment je vais faire si je ne peux pas le voir? Si je ne peux pas l'entendre? Voilà, pour les parents sourds. Et j'imagine l'angoisse aussi peut-être de l'entourage. Mais comment il va faire ou elle va faire? Est-ce qu'elle est en capacité, peut-être, cette question du jugement, du regard des autres? Est-ce que cette personne est en capacité, finalement, de devenir parent?
C'est une question infinie. Parce qu'elle se pose au niveau social et elle se pose au niveau familial, notamment avec l'entourage familial, qui peut avoir la tentation de rapter l'enfant. Et ça, je l'ai rencontré quelques fois. C'est pas évidemment et heureusement partout le cas, mais ça peut l'être.
Rapter dans le sens prendre pleinement en charge l'enfant en dépossédant les parents de leur accès ou position de parent.
Ouais.
D'ailleurs, en préparant l'épisode, vous me disiez, Drina, qu'il y avait plus de situations de placement chez les parents atteints d'un handicap mental.
Oui.
Et que finalement, c'était assez rare chez des parents atteints de handicap moteur ou sensoriel.
Absolument. Enfin, dans mon expérience, tout à fait, bien sûr.
Et Hélène, cette question du jugement des autres, alors les autres, la famille et puis peut-être plus largement la société, voilà, par rapport à vos capacités, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, percevoir?
Oui, des personnes qui ne comprennent pas parce que ça ne se voit pas. J'ai eu les premières années, quand j'ai eu mon dossier à la MDPH, une carte priorité pour les stationnements que je n'ai plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai une capacité à me déplacer voilà, qui n'est pas limitée. Donc je n'ai plus cette carte aujourd'hui. Des personnes de mon entourage étaient gênées.
C'est vrai que là vous dites un mot qui me paraît très important, qui est le handicap invisible. Parce que ça c'est quand même aussi presque une catégorie à part. Elle regroupe des personnes qui ont un handicap moteur. Ça peut être aussi des personnes qui ont un handicap visuel. Quand ces personnes qui sont déficients visuels mais pas aveugles. Et c'est vrai aussi pour des personnes sourdes. Et alors là, pour eux, c'est vraiment... Il y a des moments dans la vie où c'est très compliqué.
Pour parler justement du handicap sensoriel, pour les parents non-voyants, comment... Le bébé, finalement, va-t-il intégrer cette déficience du parent parce qu'on sait l'importance du regard, des échanges de regards. Comment ça va venir s'organiser entre la mère et le bébé?
C'est vraiment une question sur laquelle on commence à réfléchir, je dirais. Parce qu'il y a eu une espèce d'idée toute faite qu'il fallait que la mère regarde le bébé dans les yeux parce que le bébé pouvait la voir, et des nanas. Mmh. Et même au début, Edith disait aux mamans aveugles, même si vous ne le regardez pas, allumez la lumière et tournez votre visage vers lui. Ce qui était là aussi une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, les bébés s'accommodent extrêmement bien de diverses situations. Le regard est une espèce de synthèse d'une sensorialité complète. Mmh. De la peau, de l'odeur, du son, éventuellement même de la proximité. Et donc, pour les tout-petits, bien sûr que le regard est très important, et dans notre culture peut-être plus qu'ailleurs, mais ils ont aussi toutes les autres possibilités. Et pour moi, ça a été vraiment un élément, je dirais presque théorique, tout à fait central, de pouvoir penser que finalement, les capacités multisensorielles des bébés étaient au service de leur adaptation. Et ça, c'est absolument formidable. Mmh. Et culturellement, d'ailleurs, il y a énormément de cultures où le regard est même tabou sur le bébé.
Ça me fait penser à la notion de Daniel Stern d'intermodalité sensorielle.
Absolument.
Finalement, de la capacité du bébé à transformer une modalité sensorielle en une autre.
Absolument. C'est absolument fondamental à tenir compte de ça. Alors, après, quand l'enfant qui est, par exemple, voyant, va grandir, et il n'y a pas que sa mère dans son entourage, il y a son père, il y a ses grands-parents, il y a les copains à l'halte-garderie, il y a plein de choses, et son univers n'est pas réduit à trois personnes. Hein. Mmh. Donc, voilà.
Donc il va y avoir là des systèmes de compensation, là je pense par oui. exemple aux mamans malentendantes, sourdes, que finalement l'enfant va développer, parce qu'on fait le lien entre le langage et le fait que la mère parle à l'enfant pour que l'enfant développe le langage, mais il n'y a pas que la mère qui parle à l'enfant ou qui entend l'enfant, voilà, il y a tout l'environnement finalement qui va
Bien
permettre
sûr.
Cet accès-là.
Bien sûr, et puis il y a des phénomènes, alors là dans les aménagements dont parlait Hélène tout à l'heure, pour les sourds, il y en a aussi beaucoup, avec des lumières qui s'allument quand le bébé pleure, enfin, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi la possibilité que les enfants accèdent très tôt au langage des signes. Donc ça, aussi, c'est une découverte récente. On ne pouvait pas imaginer que les enfants étaient capables de comprendre des gestes. Mmh. Et pourtant, c'est le cas.
Oui, d'ailleurs, le langage des signes pour les bébés qui est beaucoup utilisé en dehors de toute situation de handicap, mais qui en
Bien
effet
sûr.
Permet de communiquer très tôt avec le bébé. Qu'est-ce que, Drina, vous recommanderiez aux parents en situation de handicap qui nous écoutent, voilà, à partir du moment où ils ont ce projet d'avoir un enfant ?
Alors ça, c'est très important, je pense, que d'être préparé. D'être préparé, je trouve que c'est central. C'est central pour tout le monde. Mais c'est peut-être encore plus central pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a une espèce de récapitulation de sa vie, même si on n'y pense pas tous les jours, même si on se dit pas eh ben moi quand j'étais petit nanana, non, bien sûr que c'est pas aussi formulé si vous voulez, mais cette récapitulation elle existe, elle travaille toute la grossesse, et je pense que là c'est important d'avoir la possibilité d'avoir une écoute. D'ailleurs, je pense que Hélène a soulevé aussi cette question, comment avoir une écoute pendant la grossesse, et je crois que ça c'est très important.
Et du coup, cette écoute, auprès de qui les parents peuvent la trouver ?
Quand on a fondé le SAPPH, on s'est dit, on fait ça, mais au mieux, on devrait disparaître. C'est-à-dire que ce qu'on pense, ce qu'on essaye de diffuser, tous les services devraient le prendre en compte. Mmh. Et par exemple, les maternités. Alors, vu la crise de l'hôpital public, on est loin de...
Oui, et puis là, ça pose vraiment la question de la formation aussi de tous ces professionnels
Absolument,
de santé.
Absolument, bien sûr.
De l'organisation des services, voilà.
Ouais, c'est sans fin. Mmh. Ça passera pas par là. Ça peut passer par les PMI aussi, une prise de conscience des PMI. Là aussi, c'est pas encore le cas, hein. C'est loin d'être le cas. Donc, il y a toute une culture, je dirais. de cet accompagnement spécifique qu'on souhaite, qu'on avait imaginé pouvoir diffuser. Alors, c'est bien mieux qu'il y a 15 ans, mais on a encore un travail énorme à faire.
Et Hélène, est-ce que vous avez eu le sentiment, dans la maternité où vous avez accouché, voilà, d'avoir été accompagnée, écoutée, prise en charge, d'avoir eu affaire à des professionnels qui étaient un peu informés sur cette question de l'accompagnement d'un parent en situation de handicap ?
Non, on m'en a pas du tout parlé, pas du tout. Non, non, on a géré ma douleur, les infirmières ont géré ma douleur, mais sur ce qui allait se passer à la maison, non. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver donc le SAPPH que j'ai trouvé par moi-même, mais quand mon fils avait déjà 7 ou 8 mois. Mais parce que je suis aussi dans la profession et ça m'a aidée. Cette structure, je l'ai trouvée aussi par des partenaires avec qui je travaille. Mais personne ne m'en a parlé. Personne.
Et même le relais, si vous voulez, par les associations de personnes en situation de handicap, ce relais-là n'est pas encore en place. Ça a été peut-être plus facile pour les personnes déficientes visuelles, parce que Edith avait déjà travaillé à l'AVH et avait déjà été sollicitée.
Qu'est-ce que l'AVH ?
L'association Valentin Oui. Et puis, tout ce qui est autour de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles. Donc là, il y a vraiment tout un réseau qui est pas idéal, mais qui quand même fonctionne.
Qui existe.
Mais pour, par exemple, les personnes en situation de handicap moteur, il y a tellement de handicaps moteurs et tellement d'associations que c'est vrai que ces relais-là sont très, très difficiles à faire connaître.
Donc là, on en revient à cette difficulté d'accès aux soins, Absolument. D'accès à des accompagnements spécifiques, alors que vraiment, sûr. Vous nous dites que c'est essentiel dès le début de la grossesse.
Oui, oui. Et par exemple, le service du professeur Domergue à la Salpêtrière s'est spécialisé dans ces types d'accompagnement gynécologique et ils ont quand même une grande écoute au niveau d'accompagnement plus psychologique, je dirais.
Alors là, vous parlez de ce service, voilà, de pouvoir choisir une maternité. Alors, en fonction de là où on habite, on n'a pas forcément beaucoup de choix.
Non.
Mais voilà, de pouvoir se renseigner. Voilà, y a des maternités voilà, qui sont peut-être un peu plus réfléchies, en tout cas, à ces questions.
C'est encore très, très lent. Ouais. Je ne veux pas critiquer, mais un service comme celui du professeur Domergue, il reste encore très, très isolé. Et pourquoi ce service s'est développé ? Parce qu'à la Salpêtrière, il y a encore énormément de services de neurologie, de difficultés, enfin d'accompagnement de différentes maladies neurologiques. Et donc, lorsque les jeunes femmes témoignaient d'une envie, enfin d'un désir d'enfant, il y avait ce relais. Mais ce n'est pas vrai partout.
Ouais,
donc, ce n'est pas encore ça.
Encore beaucoup de choses à faire.
Oui.
Comment le parent peut justement confronter à des équipes, des professionnels qui ne sont pas informés ? Comment il peut faire avec ça ? Cela, j'imagine à quel point de nombreux parents se sont peut-être retrouvés dans la position presque d'éduquer ou d'informer.
Absolument. Ça, je trouve que c'est une idée à diffuser parce que je trouve que c'est très important. Pendant très longtemps, j'entendais que lorsque quelqu'un en situation de handicap arrive dans un service, et accompagné par son conjoint ou par, je sais pas, par quelqu'un, le personnel médical s'adresse au conjoint en disant « Elle veut ci, elle veut ça ». Et ça, c'était une blessure, mais évidente. Hein, c'était eux qui disaient « Mais elle entend, c'est une personne, vous pouvez lui parler directement ». Et ça, combien de témoignages on a eu comme ça ? C'est fou. C'est fou de se dire que vraiment, toutes ces personnes sont souvent tenues pour infantiles. On les infantilise, quoi. C'est absolument dingue. Ouais. Quelquefois, d'ailleurs, la défense peut prendre des aspects violents. Et alors, ça redouble le rejet. J'ai pu constater ça. Je connais des personnes qui ont de nombreux handicaps, qui se mettent en colère à chaque fois, et on leur dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse ?» quoi, hein ? Voilà. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout.
Trouver le bon dosage.
Le bon dosage, oui. Hein.
Au retour à la maison, quels sont, alors vous nous dites bien hein, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les aides, les professionnels, là je pense peut-être à toutes ces questions de rééducation, d'ergothérapeute. Est-ce que, Hélène, vous avez fait appel à un ergothérapeute pour aménager aussi l'environnement domestique voilà, de la maison ?
Non, pas tout de suite après la naissance. J'ai eu des séances d'ergothérapie en centre de rééducation il y a seulement un an. Où on a évoqué la parentalité, puisqu'on prenait en compte en fait nos besoins, nos demandes par rapport à notre maison. Donc on était un petit groupe voilà, de personnes qui venaient pour des douleurs chroniques, et donc j'ai pu à ce moment-là poser mes questions et adapter mon quotidien. Mais ça date d'il y a 12 mois seulement.
Vous voyez, je pense que c'est aussi... Enfin, j'essaie toujours de voir ça au niveau plus général. Les professions d'ergothérapeute sont aussi très récentes. Je crois qu'ils sont très, très intéressants et très importants, justement, sur ces aménagements, mais c'est encore récent. Au niveau même des pouvoirs publics, on a beaucoup milité avec Edith Way pour que la PCH, c'est-à-dire la prestation compensatoire du handicap, puisse être accordée à des parents en tant que parents. C'est-à-dire, par exemple, avoir une aide en d'une personne tous les jours qui soit prise en charge par cette PCH ou d'avoir des aménagements de la maison qui soient pris en charge par la PCH ou un ordinateur qui soit pris en charge par la PCH. Enfin voilà, il y a une allocation adulte handicapé à l'âge et puis il y a une PCH qui est calculée en principe par les maisons départementales du handicap en fonction des besoins des familles. Mais c'est extrêmement récent. Ça doit dater de 2-3 ans, peut-être même pas partout d'ailleurs. Les maisons départementales du handicap sont départementales, comme son nom l'indique. C'est pas le cas pour Hélène, mais j'ai connu des dames vraiment très handicapées en fauteuil tétraplégique qui pouvaient avoir besoin vraiment d'une aide toute la journée pour les aider avec l'enfant, avec tous les problèmes que ça pose. Mais en tout cas, c'était nécessaire, c'était indispensable. Voilà.
Donc là, oui, vous soulignez les aides financières possibles, mais que c'est peut-être pas si simple déjà de les connaître,
c'est ça.
D'y avoir accès, de pouvoir en bénéficier, et puis ensuite de mettre des aides, des relais en place concrètement.
Oui, et puis de les gérer. Par exemple, quand je dis, je pense à une maman en particulier qui vraiment était très, très, très bloquée. Il y avait quelqu'un dans la maison qui venait pour s'occuper de l'enfant. Mais c'est aussi très difficile, cette espèce de doublon autour du bébé. Hein ? Comment laisser la place à quelqu'un d'autre sans perdre son rôle de mère ? Ça soulève beaucoup de douleur, hein, quand même.
Oui, là, la question de la place des aidants, des enjeux, de la rivalité qui peut peut-être se mettre en place.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que, Hélène, c'est des difficultés que vous avez pu rencontrer, alors là, notamment avec votre conjoint, voilà, justement, cette difficulté que chacun puisse trouver sa place et peut-être de dépasser ces enjeux de rivalité ?
Oui, bien sûr, et on avait évoqué ensemble d'une aide ménagère, une aide pour le quotidien, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé, même en finançant un peu. Hein. Il fallait faire un contrat avec une personne. C'était pas en lien avec le handicap, donc là, on était hors budget. Oui, on a évoqué tout ça, bien sûr.
Dans le temps, comment les enfants... Voilà, quand ils prennent conscience du handicap de leurs parents, comment ça se passe généralement pour eux ?
Alors, il y a quelque chose contre lequel je me suis toujours violemment élevée, c'était de penser que les enfants étaient parentifiés. Ça, alors, je trouve que c'est une violence encore faite aux personnes en situation de handicap. Non, les enfants ne sont pas parentifiés, les enfants apportent de l'aide. Ça, c'est clair, hein. Même très, très petit. Je pense à une maman, par exemple, qui était aveugle avec sa petite fille dans une réunion de collègues où tout le monde dansait. Elle était évidemment sur sa chaise. Et c'est sa petite fille qui devait à peine marcher, 18 mois, qui vient la chercher par la main et qui vient la faire danser. Donc, c'est vrai, ça existe. Est-ce que ça n'existe pas dans toutes les familles, plus ou moins, hein ? C'est-à-dire, je pense que tout enfant est extrêmement sensible à une possibilité d'aide qu'il peut apporter à ses parents. Ça laisse des traces, certes, mais ça laisse des traces chez tout le monde. cette question de l'aide, je ne veux pas l'entendre sous l'angle de la parentification, mais de la nécessaire sensibilité des enfants aux situations et aux faiblesses de leurs parents. Ça, je crois que c'est vrai. Alors, évidemment que ça devient plus important à toutes les étapes du développement, c'est-à-dire l'acquisition de la marche pour les petits, c'est quand même un moment de crise importante. Ensuite, il y a l'arrivée à l'école et comment faire comprendre aux copains que sa maman ne voit pas, ou que sa maman est en fauteuil, ou que voilà, qu'elle peut pas faire tout ce que font les autres mamans. Ça soulève sans doute chez les enfants aussi des questions vraiment pas toujours faciles à résoudre. Il y avait des mamans qui allaient souvent dans les classes pour expliquer leur handicap aux enfants, hein, que ce soit en maternelle ou après. Enfin, c'était assez intéressant, hein, de voir quel courage elles déployaient pour que ce handicap soit aussi sensible aux enfants. Et puis après, il y a l'adolescence. Alors là, c'est encore une autre affaire, mais c'est une autre affaire dans toutes les familles. Mais l'adolescence, alors, je pense à une jeune fille qui avait toujours très peur que sa maman aveugle tombe dans le métro. Mais c'était une angoisse permanente. Alors, comment l'interpréter ? Bon, je crois que c'était aussi en fonction de son désir d'autonomie, cette fois-ci plus importante, et le fait qu'il fallait bien lâcher cette mère dont elle s'était occupée depuis qu'elle était petite. Quand elle elle-même a eu un enfant, elle est venue au SBPH alors qu'elle n'avait pas de handicap. Elle a dû être très, très soutenue et accepter que... Je crois que pour chaque étape de la vie, enfin je l'ai déjà dit un petit peu, mais du côté de l'enfant, ça se joue aussi.
Est-ce qu'il est important de parler de son handicap, d'expliquer à partir de quel moment, vous disiez Hélène, vous finalement vous en avez toujours parlé à votre fils, mm-hmm. Mais j'imagine voilà, que ce que vous lui racontez a dû évoluer aussi en fonction de son âge. Voilà, comment on se positionne par rapport à ça ?
Oui, ça, évidemment, je pense que c'est très important. C'est à la fois en fonction de son âge et en fonction de l'intégration personnelle de ses propres difficultés. On ne demande pas ça aux parents, de droit commun, je dirais. On ne leur demande pas d'expliquer, ah bah oui, tu sais, j'ai perdu mon boulot, mais ce n'est pas bien grave. On demande ça aux personnes en situation de handicap. Là encore, je trouve que c'est leur demander beaucoup. Hein, c'est leur demander beaucoup.
Là, ce que vous voulez dire, Drina, c'est que, quand vous dites en fonction de ses capacités d'intégration, qu'il vaut mieux attendre et en parler quand on est... ok, serein, quand on a dépassé un peu la difficulté, que quand on est finalement dans la machine à laver, quoi.
Absolument. Ça, Je suis d'accord, complètement. Je pense aussi à une personne, à un monsieur qui a eu une carrière, enfin, il y en a eu plusieurs, qui ont des grandes carrières, de grands professeurs, etc. Mais ça n'empêche pas que, voilà, le handicap est là, et les enfants sont là, et les discussions ne sont pas toujours simples.
Globalement, dans ce que vous avez pu observer, Drina, est-ce que les enfants vivent mal le handicap de leurs parents ? En tout cas, j'entends qu'il peut y avoir cette crainte que ça puisse être douloureux pour l'enfant.
Oui, bien sûr. C'est douloureux. Il faut l'admettre et l'aménager au mieux. Mais évidemment que c'est douloureux. Vous savez, j'ai toujours en tête le fait qu'Albert Camus avait été éduqué par sa mère et son oncle, il était orphelin de père, qui étaient tous les deux sourds. Ça ne l'a pas empêché d'avoir le prix Nobel. Je ne sais pas comment ils ont fait, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, sans doute que le handicap met en évidence le fait que la tendresse et l'attention pour l'autre est le meilleur ferment de l'éducation. Si les personnes en situation de handicap ont ça, quelles que soient les douleurs, quelque chose pourra germer chez l'enfant d'une vitalité dont ils ont besoin. Voilà.
Oui, et puis peut-être de toute façon, la vie est faite aussi de douleurs.
Évidemment.
Voilà, c'en est une parmi d'autres. Mais...
Évidemment.
Donc c'est comment on apprend à faire avec, à les dépasser. Vous percevez ça chez votre enfant aujourd'hui, Hélène ? Voilà, que ça peut être compliqué par moment pour lui ?
J'ai pu le percevoir et je peux effectivement me rendre compte que parfois ça peut être compliqué pour lui, bien sûr.
Comment vous vivez ça dans ces moments-là ?
C'est quand même angoissant, c'est inquiétant. Et là, moi, dans ces cas-là, j'essaie de travailler sur moi en essayant de l'accompagner le mieux possible. Parce que de toute façon, je ne peux rien faire face à tout ça.
Hélène, est-ce que, alors on a parlé des différentes aides, les aides financières, les différents services spécialisés d'accompagnement, même s'il n'en existe pas beaucoup. Est-ce que vous avez sollicité des associations, Hélène ?
Non, puisque je n'en ai pas trouvé. Il existe des associations pour des aidants, des parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais des associations pour des parents qui sont en situation de handicap, ça n'existe pas.
Alors, il en existe une,
mais elle la connaît.
Ouais. L'association Handiparentalité.
Ah oui,
Handiparentalité. Oui, exactement.
Qui est basée à Bordeaux. Mais...
Je dois dire que, par exemple, au Canada, il y a vraiment une politique beaucoup plus développée qu'en France. Hein. Il y a des pays comme ça, enfin, le Canada est souvent cité pour ses législations un peu avant-gardistes. Oui, absolument. Et donc, il y a beaucoup d'associations pour parents handicapés au Canada, une grosse littérature, enfin vraiment. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il en est effectivement dans la vie de chacun, mais en tout cas, au niveau politique, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y a pas encore en France.
On peut s'inspirer.
Oui, je crois.
Hélène, est-ce que vous voulez nous parler de votre projet ?
Oui. J'ai engagé une formation il y a un peu plus d'un an maintenant pour me former comme consultante en parentalité. Et donc, ce projet, bien évidemment, vient aussi de mon histoire personnelle. Et je souhaite développer dans l'accompagnement, le soutien aux parents, cette notion de parentalité liée au handicap. Donc, j'ai à cœur de mettre en place des ateliers de soutien pour ces parents-là, qui ont pour objectif de se soutenir, de se donner des pistes de réflexion, parce qu'ils traverseront forcément à peu près les mêmes problématiques.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Hélène, est-ce que vous avez lu quelque chose ou vu, ça peut être une vidéo, ou écouté quelque chose que vous auriez envie de partager ?
Alors moi, j'avais trouvé, quand mon fils était tout petit, à la médiathèque, des livres qui parlaient du handicap. Donc j'avais utilisé cet outil, mais parmi d'autres, hein, puisque c'est vrai qu'on va beaucoup à la médiathèque, donc pas pour en faire quelque chose d'axé là-dessus, mais j'ai eu l'occasion de trouver des livres avec des enfants, par exemple en fauteuil roulant dans l'histoire, ou un enfant malvoyant, et je me disais que c'était un support intéressant, donc j'ai pris ce livre à ces moments-là où j'ai pu tomber dessus pour l'évoquer comme j'évoque d'autres sujets. Voilà, donc j'ai pas forcément de biblio en tête, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé.
Alors là, un livre pour les enfants qui est très bien fait, c'est le Handicap de Stéphanie Ledu et Laurent Richard dans la collection Mes petits docs, édition Milan Jeunesse. Qui est pas mal fait sur cette question-là. Verena, est-ce que vous auriez autre chose à nous recommander ?
J'ai écrit un petit livre dans la collection Yapaka Belgique, qui est une collection formidable auquel tout le monde peut avoir accès par Internet. Ils ont eu la gentillesse de me demander de parler de ce sujet, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est une ressource
incroyable.
Formidable. Yapaka Belgique. Point Belgique.
L'intitulé du livre qu'on peut en effet télécharger gratuitement en ligne, c'est Accompagner le parent porteur de handicap.
Voilà, c'est ça.
Un très grand merci, Hélène, d'être venue partager avec nous votre histoire. Comment vous êtes devenue maman et comment vous gérez au quotidien avec votre handicap. Merci beaucoup, Drina Candilis. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.